Imaginons un instant une école où on pourrait inscrire un enfant un mardi matin en plein mois de novembre.
D'accord.
Ou, je sais pas, un jeudi après-midi au mois de mars. En fait, pas de date butoir rigide en septembre, pas de fenêtre administrative complètement inflexible.
Ah oui, le cauchemar administratif habituel.
Exactement. Et là, pour remettre les choses dans leur contexte, on est actuellement en juillet 2026, et en fouillant dans les annonces pour la rentrée de cette école spécifique, on tombe sur cette mention un peu fascinante qui dit que les inscriptions se font toute l'année.
C'est vraiment atypique.
Bah oui, ce simple fait, du coup, brise d'emblée toutes les règles de la logistique scolaire traditionnelle. Tu sais, ce système où c'est l'institution qui dicte le calendrier de l'enfant.
C'est clair.
Donc, notre analyse aujourd'hui, c'est une plongée au cœur de la documentation officielle et du portail numérique d'un établissement qui fonctionne précisément sur ce modèle. Il s'agit de l'école fondamentale spécialisée mixte Clairefaille.
Oui, qui est située à Woudray.
Voilà, dans l'entité de Binche, en Belgique. Et notre mission, mais ça va être de décortiquer comment une institution parvient, mécaniquement parlant, à repenser l'apprentissage pour les enfants à besoins spécifiques.
Et je dirais même que le cadre de cette exploration est vraiment crucial, parce que les documents qu'on examine, ils révèlent bien plus qu'une simple gestion d'établissement.
C'est-à-dire ?
Ben, on est face à un écosystème éducatif qui cherche vraiment à opérer un basculement de paradigme. Historiquement, l'enseignement spécialisé, il a souvent lutté contre une dérive. Une dérive vers ce qu'on appelle, un peu familièrement, la garderie.
L'occupationnel pur, pas.
Tout à fait. Et l'objectif de Clairefaille, tel qu'il transparaît vraiment partout dans leurs sources, c'est de remplacer cette logique par une véritable ingénierie de l'autonomie. Il résume d'ailleurs ça avec une devise qui pose vraiment les fondations de leur pédagogie. C'est, je cite, « une école de la vie, par la vie, pour la vie ».
C'est beau.
Oui, l'idée centrale, en fait, c'est pas de forcer l'enfant à s'adapter à une norme qui est préétablie, mais plutôt d'adapter l'environnement à la singularité de la personne qui apprend.
Et pour bien comprendre l'ampleur de ce projet, je pense qu'il faut se pencher un peu sur la réalité démographique. La logistique de l'école, quoi.
Vas-y.
En moyenne, Clairefaille accueille 185 élèves. Et on couvre une tranche d'âge super large. Ça va des tout petits de 2 ans et demi jusqu'aux jeunes ados de 13 ans.
D'accord.
Mais le chiffre qui saute aux yeux quand on lit les rapports, c'est l'encadrement. On parle de 46 membres du personnel.
Waouh ! Attends, 46 pour 185 élèves ?
Oui, c'est énorme, non ?
Bah, c'est un ratio qui modifie littéralement la physique d'une salle de classe, j'ai envie de dire.
Comment ça ?
Dans l'enseignement ordinaire, un prof y gère avant tout une dynamique de groupe. Il n'a pas le choix. Mais avec un ratio pareil à Clairefaille, le corps enseignant a vraiment la capacité matérielle de gérer des individus.
Et j'imagine que c'est indispensable, vu le profil des élèves. Leur document précise que l'école s'adresse aux enfants qui relèvent des types 1, 2 et 8 dans le système belge de l'enseignement spécialisé.
Oui, c'est exact.
Alors, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on peut décoder un peu ce jargon ? Concrètement, qu'est-ce que ça implique au quotidien pour le cerveau de ces enfants ?
Bien sûr. Alors, pour faire simple, les types 1 et 2, ça concerne des enfants qui présentent des retards intellectuels légers à modérés.
Ok.
Tandis que le type 8, lui, se concentre sur les troubles spécifiques d'apprentissage, mais sous des formes sévères. On parle de formes lourdes de dyslexie, de dyscalculie.
Donc, c'est pas juste un petit retard de lecture, hein ?
Ah non, pas du tout. Dans la pratique, ça se traduit par des enfants pour qui la mémorisation classique, bah, ça ne fonctionne juste pas. Ce sont des élèves qui rencontrent des difficultés d'abstraction massives. Je te donne un exemple.
Vas-y, je suis tout ouïe.
Demander à un enfant qui a de profonds troubles spatio-temporels de s'organiser sur une page blanche ou même de conceptualiser le fait qu'un devoir est à rendre, entre guillemets, pour la semaine prochaine.
Oui, pour nous, c'est simple.
Pour nous, oui. Mais pour lui, c'est littéralement lui demander de résoudre une énigme indéchiffrable.
C'est fou.
Et à ça, il faut rajouter les troubles de l'attention, les fameux TDA ou TDAH.
Ah oui, très courant.
Oui, ou même des difficultés relationnelles complexes. En fait, l'architecture cognitive de ces enfants traite simplement l'information d'une manière complètement différente.
Du coup, c'est ce qui rend une de leurs déclarations officielles vraiment percutante, je trouve. Dans le projet pédagogique de Clairefaille, ils écrivent noir sur blanc, je cite encore une fois, « Chez nous, l'occupationnel n'existe pas ».
C'est une phrase forte.
Très forte. Leur objectif affirmé, c'est vraiment d'inculquer des savoirs, savoir-être et savoir-faire.
Oui.
Et en lisant ça, ça m'a fait penser à une analogie. Si on compare l'école traditionnelle à, disons, une usine de prêt-à-porter, tu sais, où on essaye de faire rentrer chaque enfant dans un t-shirt de taille unique.
L'image est bonne.
Eh bien, la documentation de Clairefaille décrit plutôt un atelier de haute couture éducative. On ne se contente pas de trouver une taille approximative.
On prend les mesures.
Exactement. On prend les mesures tous les jours, on ajuste les manches, on retaille le tissu cognitif pour que l'outil d'apprentissage épouse vraiment parfaitement les contours de l'enfant.
Mais cette métaphore de la haute couture, elle illustre parfaitement la mécanique. Et d'ailleurs, ce rejet du terme « occupationnel », c'est vraiment la clé de voûte de leur démarche.
C'est-à-dire que ça change quoi, fondamentalement ?
Eh bien, pendant des décennies, toute une frange de l'enseignement spécialisé a pratiqué, disons-le franchement, un gardiennage institutionnalisé.
De la garderie, comme on disait.
Voilà. Face à la difficulté de l'enfant, le système baissait les bras sur l'exigence intellectuelle. On se contentait de maintenir les enfants au calme.
Avec des activités un peu périphériques.
C'est ça. Du coloriage, de la pâte à modeler. Mais sans aucun réel objectif d'apprentissage derrière, juste pour passer le temps.
C'est un peu triste quand on y pense.
Très triste. Mais en affirmant que l'occupationnel n'existe pas, l'école restitue à l'enfant à besoins spécifiques son vrai statut d'apprenant.
On lui redonne sa dignité, en somme.
Absolument. C'est poser le postulat que peu importe la lourdeur du trouble, l'enfant est capable d'acquérir de réelles compétences, que ce soit en lecture, en écriture ou en maths. À condition, bien sûr, de trouver le bon canal de transmission.
Alors, la question un peu évidente qui découle de cette belle ambition, c'est de savoir comment ça se traduit, mais mécaniquement parlant, dans les classes.
Bien sûr.
Et les sources mettent vraiment en avant un outil central pour ça, le PIA, le plan individuel d'apprentissage.
Le fameux PIA, oui.
Ce PIA, d'après les textes, il est constamment réévalué lors de conseils de classe. Et ensuite, il vient alimenter un autre document, le CIC, le carnet individuel de compétences.
Qu'on appelle aussi parfois le CEP, le carnet d'évolution personnelle.
Voilà. Mais concrètement, comment un truc comme le PIA modifie la journée type d'un élève ?
Alors, il faut voir le PIA un peu comme un algorithme de navigation sur un GPS, tu vois, qui recalcule l'itinéraire en temps réel.
Ok, je vois l'idée.
Prenons un exemple concret, l'apprentissage des fractions.
Aïe, le cauchemar de beaucoup d'enfants.
C'est ça. Si la méthode classique avec le prof ou tableau noir génère un blocage cognitif chez un enfant, le PIA va acter ce blocage. C'est consigné.
D'accord.
Et le conseil de classe va ensuite décider de modifier la modalité d'apprentissage. On va peut-être passer par des manipulations physiques d'objets ou utiliser des outils visuels très spécifiques.
Et le CSI dans tout ça ?
Le CSI, lui, va tracer l'acquisition de cette compétence précise, mais étape par micro-étape. En fait, l'enfant n'est plus du tout évalué par rapport à une moyenne de classe ou à un programme ministériel rigide.
Il est évalué par rapport à lui-même.
Exactement, par rapport à sa propre courbe de progression qui est définie dans son PIA.
C'est fascinant. Et pour héberger tous ces itinéraires sur mesure, les documents montrent qu'ils ont structuré l'école avec une diversité hallucinante de classes spécialisées.
Oui, avec des acronymes très précis.
Il y a plein d'acronymes, hein. Ils mentionnent des classes pour les DS, une classe maternelle de découverte, une classe TDL, une classe TDC et depuis 2019, deux classes TACH.
Ça fait beaucoup de lettres.
C'est clair. Prenons le temps de décortiquer tout ça.
Oui, c'est indispensable pour comprendre la mécanique du sur-mesure. Commençons par la classe TDL.
Vas-y.
Ça cible les troubles du développement du langage, donc particulièrement la dysphasie.
D'accord. Et comment on adapte la classe pour ça ?
Dans une telle classe, tout l'environnement physique et pédagogique s'adapte. On va utiliser massivement des pictogrammes, des supports visuels ou même la langue des signes.
Pour pallier les défaillances du langage oral, j'imagine.
Tout à fait. Ensuite, on a la classe TDC. Ça, c'est pour les troubles du développement de la coordination. L'exemple le plus connu, c'est la dyspraxie.
Et là, la différence, c'est quoi ?
Là, on va se concentrer sur l'ergonomie. Il faut comprendre que pour un enfant dyspraxique, l'acte même d'écrire ou d'utiliser des ciseaux demande un effort neurologique mais vraiment épuisant.
Ah oui, c'est pas fluide du tout.
Pas du tout. Donc, dans cette classe, on trouvera du matériel adapté. Des pupitres inclinés, des ordinateurs. Le but, c'est que l'enfant puisse se concentrer sur le fond de l'exercice.
Et pas sur la fatigue physique de juste tenir un crayon. C'est hyper logique, en fait.
Oui.
Et qu'en est-il de la méthode Teach ? C'est mentionné comme ayant été introduit en 2019 et ça s'adresse spécifiquement aux élèves sur le spectre de l'autisme.
Ah, Teach, c'est une approche fascinante. Elle repose sur la structuration extrême du temps et de l'espace.
Structuration extrême, c'est-à-dire ?
Eh bien, le cerveau autistique génère souvent une forte anxiété face à tout ce qui est imprévisible.
L'inconnu, ça stresse.
Énormément. Donc, dans une classe Teach, l'espace physique est délimité visuellement et de façon très stricte.
Donc avec des zones bien définies.
Voilà, il y a une zone claire pour le travail individuel, une autre zone pour le travail en groupe, et une zone de transition. Et le temps est séquencé visuellement aussi, par des emplois du temps personnalisés.
Affichés au mur.
Oui, souvent aux lures, avec des objets ou des images. Comme ça, l'enfant sait exactement ce qu'il fait à un instant T, combien de temps ça va durer, et surtout ce qui va se passer ensuite.
Donc, aucune surprise.
Aucune. Cette prévisibilité, ça réduit drastiquement la charge cognitive et l'anxiété. Et du coup, ça permet au cortex de se concentrer enfin sur l'apprentissage.
C'est brillant. Mais bon, la mise en place de ces structures qui sont millimétrées, ça se fait pas tout seul par magie.
Ah non, ça demande une organisation en béton.
Et d'ailleurs, l'organigramme fourni dans la documentation révèle bien que cette ingénierie requiert un travail d'équipe hyper coordonné.
On peut en parler. Oui.
On y voit la direction, assurée par Laurent Lhermignot, qui doit fixer ce cap hyper ambitieux. Et puis, il y a la coordination pédagogique, gérée par Dany Moreno. J'imagine que son rôle, c'est de faire le pont entre, d'un côté, la théorie des méthodes comme TACH, et de l'autre, la réalité du terrain pour les profs.
C'est exactement ça.
Mais il y a un troisième pilier dans les sources qui a vraiment retenu mon attention. C'est le service social, géré par Sonia Moussaoui. Et franchement, on pourrait se demander pourquoi un service social est si prééminent dans l'organigramme d'une école. C'est pas si courant à ce niveau-là.
Pourtant, le rôle du service social est névralgique dans ce type d'écosystème.
Pourquoi ?
Imagine, l'école construit un environnement ultra structuré, apaisant, parfait pour l'enfant.
D'accord.
Mais si le milieu familial de cet enfant est en crise, ou totalement démuni face au handicap, tous les efforts pédagogiques s'effondrent dès que l'enfant rentre chez lui à 16 heures.
Ah, la rupture est trop brutale.
Voilà. Le service social s'assure donc que les outils mis en place, tu sais, via le PIA ou les routines acquises en classe TEACH, trouvent une continuité à la maison.
C'est le maillon entre l'école et le salon de la famille, quoi.
Exactement. Ça relie l'ingénierie scolaire à la réalité quotidienne.
D'accord, je comprends bien. L'architecture interne, franchement, elle est d'une précision redoutable. Mais parce qu'il y a un mais, je me dois de soulever ce qui me semble être une faille potentielle dans tout ce système.
Je t'écoute.
Si on crée une classe TDC ergonomiquement parfaite, où il n'y a aucune friction pour la dyspraxie, ou une classe TEACH qui élimine absolument toute imprévisibilité pour un enfant autiste,
oui.
Est-ce qu'on ne crée pas des bulles hyper spécialisées qui, au final, isolent l'enfant de la réalité ? Parce que, soyons honnêtes, le monde extérieur n'est pas structuré selon la méthode TEACH.
C'est une critique très courante, l'argument de la surprotection.
Bah oui, à force de protéger ses élèves dans un environnement sans la moindre friction, est-ce qu'on ne les condamne pas à un choc d'une violence inouïe le jour où ils devront sortir de l'école ?
C'est un débat central en pédagogie spécialisée, on est d'accord. Mais la lecture vraiment approfondie du cursus de Claire Fay montre que la spécialisation n'est pas le but final de l'école.
C'est quoi alors ?
C'est un échafaudage. L'objectif institutionnel, qui est explicitement visé en dernière année, ce qu'ils appellent la « maturité 4 », c'est justement la préparation à la sortie de cette fameuse bulle.
Ah, donc ils ne les gardent pas dans du coton pour toujours ?
Non, pas du tout. Leurs programmes sont construits pour orienter les élèves vers ce qu'on appelle la forme 3 ou la forme 4 de l'enseignement secondaire belge.
Alors, d'après les sources, la forme 3, c'est l'enseignement professionnel spécialisé.
C'est ça.
Et Claire Fay a d'ailleurs tissé pas mal de partenariats pour ça.
Tout à fait. Ils collaborent avec des établissements secondaires comme l'IMCE, les Rocailles, Roger Roche ou encore Saint-Vincent-au-Bourg.
Ça leur permet de faire quoi concrètement ?
Eh bien, ça permet aux élèves de maturité 4 de commencer à s'essayer à des métiers qualifiés, de mettre un pied dans de vrais ateliers professionnels. Donc, l'échafaudage pédagogique dont on parlait, il sert ici à construire une vraie compétence de métier.
Très concret, donc.
Mais l'école va encore plus loin. Il prépare aussi certains élèves à la forme 4.
Et la forme 4, si je me réfère toujours au document, c'est la réintégration pure et simple dans l'enseignement ordinaire.
Oui.
Avec pour objectif de passer le CVB, le certificat élémentaire de base, c'est-à-dire l'examen que passent tous les enfants en Belgique à la fin du primaire.
C'est un défi de taille.
Mais attends, le choc cognitif doit être phénoménal. Comment tu prends un enfant dont l'emploi du temps était régulé par des petits pictogrammes visuels pour le plonger d'un coup dans une classe standard de 25 élèves avec un tableau noir classique ?
Mécaniquement, tu veux dire ?
Oui, comment il gère cette transition ? Ça paraît presque impossible.
C'est là qu'intervient un autre mécanisme mentionné dans leur partenariat, les pôles territoriaux.
Qu'est-ce que c'est ?
Claire Fay collabore très étroitement avec l'école spécialisée La Source, à Soigny, pour encadrer ce processus précis. En fait, il ne se contente pas de transférer le dossier de l'élève vers une école ordinaire en lui souhaitant juste bonne chance.
Ce serait un peu léger.
Ce serait catastrophique. Non, l'équipe spécialisée accompagne physiquement l'intégration.
Physiquement ?
Oui, des experts se rendent dans l'école ordinaire. Leur but, c'est de conseiller l'enseignant classique, d'adapter le matériel si besoin, et de s'assurer que l'enfant transfère progressivement ses stratégies d'adaptation qu'il a apprises à Clairefaille vers ce nouvel environnement. Internalise cette fameuse béquille cognitive pour qu'elle devienne invisible au fil du temps.
C'est d'une grande lucidité comme approche, je trouve.
Oui, c'est très pensé.
Mais ce travail d'ingénierie et d'intégration, les sources montrent que ça ne repose pas uniquement sur des grilles d'évaluation ou des méthodes d'apprentissage en classe.
Tu penses à l'environnement physique ?
Oui, ils insistent lourdement sur l'aspect physique de l'école. Franchement, on n'est pas du tout dans l'image un peu cliché du bâtiment scolaire triste en béton armé.
Ah, ça non.
L'école est située dans un cadre résolument bucolique. Et les rapports de 2024 montrent des projets hyper axés sur la nature.
Oui, il y a des choses très intéressantes.
Il parle d'une école du dehors, d'une marche thérapeutique, et même c'est assez fou, de la rénovation d'un château qui se trouve carrément sur le site de l'école.
C'est assez exceptionnel comme cadre.
Mais d'un point de vue analytique, quel est le rôle mécanique de la verdure ou de ces éléments physiques dans l'apprentissage? C'est juste pour faire joli?
Pas du tout. L'environnement agit ici comme un troisième éducateur.
Un troisième éducateur?
Oui. La neurobiologie nous apprend que le mouvement et le contact avec la nature ont un impact direct, mesurable, sur la régulation de notre système nerveux.
D'accord.
Prenons l'exemple d'un enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.
Le TDAH?
Voilà. Le confiné entre quatre murs pendant des heures, ça génère un stress acoustique et moteur qui finit par saturer son cortex.
Il explose en vol, quoi.
C'est ça. Donc, la marche thérapeutique ou l'école du dehors, c'est pas juste des récréations prolongées. Ce sont de véritables soupapes neurologiques.
Donc, le fait de marcher, de bouger, ça aide physiquement le cerveau.
Exactement. Se mouvoir dans un espace ouvert, ça permet de réguler les niveaux de dopamine. Et ça aide le cerveau de l'enfant à se recentrer avant, par exemple, de devoir réaborder une tâche cognitive complexe en classe.
C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, cet ancrage, ce lien avec l'extérieur, ça ne se limite pas à la verdure de leur domaine privé.
Non, ils sont très actifs.
La documentation révèle une école qui s'insère de manière étonnamment active dans le tissu social de la région. C'est pas une forteresse.
Ils ne vivent pas retranchés, non?
Par exemple, en 2018, la ville de Binche les a récompensés lors des mérites sportifs. Ils ont aussi remporté un concours européen de réduction des déchets.
Ce qui leur a permis de gagner du matériel, d'ailleurs.
Oui, 13 ordinateurs pour l'école. Et on voit aussi d'autres soutiens extérieurs très forts dans les documents. Le Rotary de Binche Le Petit a fait don de 8 iPads. Il y a l'appui de l'ASBL Rice for Kids Belgium. Ou encore la visite de la ministre Shins, toujours en 2018, pour inaugurer de nouvelles installations.
Ça fait beaucoup d'interactions publiques.
Oui, ça démontre une volonté farouche de visibilité, tu trouves pas?
Et cette visibilité, elle est d'une importance vraiment capitale pour la sociologie de ces enfants.
Comment ça?
Historiquement, le handicap et les troubles cognitifs ont toujours été invisibilisés, cachés.
C'est vrai.
Mais en participant à des compétitions sportives ou écologiques aux côtés d'autres écoles et surtout en les gagnant, Clairefeight force la communauté locale à interagir avec ses élèves.
Ils prennent leur place dans la société.
C'est ça. Ces victoires publiques qui sont validées par des autorités politiques ou communales, elles redéfinissent l'identité de l'élève.
C'est plus juste le, avec plein de guillemets, le petit garçon autiste ou la petite fille dyspraxique.
Exactement. L'élève devient un athlète récompensé par sa ville ou un éco-citoyen reconnu par un concours européen. Ça change tout.
Et pour le matériel remporté? Les ordis, les iPads?
Ce n'est pas du luxe. Dans l'enseignement spécialisé, le numérique, c'est l'outil primordial de l'accessibilité.
Tu veux dire pour compenser les troubles?
Oui. Un iPad, ça permet d'utiliser des logiciels de dictée vocale ou de synthèse textuelle, ce qui permet de contourner instantanément, par exemple, un trouble sévère de l'écriture.
Ah oui, l'iPad écrit à la place de l'enfant qui n'y arrive pas physiquement.
Voilà.
Alors, ce foisonnement d'ouverture sur le monde et cette acceptation inconditionnelle de la neurodiversité, tout ça semble parfait sur papier.
Tu vas encore me trouver un mais.
Bah oui, il y a un détail dans les sources qui pourrait créer une vraie friction conceptuelle.
Lequel ?
Leur document précise, et de manière très claire, que Clairefeight est une école libre, confessionnelle.
Oui.
Fondée sur les valeurs de, je cite, « l'humanisme chrétien ». Et il est explicitement indiqué, en gras, que le cours de religion est obligatoire.
C'est le système belge?
Oui. Mais d'un côté, on a une promesse vibrante d'accueillir l'enfant tel qu'il est, sans jugement ni exclusion. Et de l'autre, on lui impose le dogme d'une religion spécifique. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction mécanique entre la volonté d'effacer toutes les barrières et l'imposition d'un cadre confessionnel strict?
C'est une excellente question et ça touche vraiment aux racines du réseau éducatif en Belgique, où l'enseignement libre catholique est historiquement extrêmement présent.
Mais comment il gère cette contradiction apparente?
Eh bien, si on lit bien la documentation, ils prennent vraiment soin d'expliquer comment cette identité s'articule dans leur philosophie.
C'est-à-dire?
Ils définissent cet humanisme chrétien non pas comme une entreprise de conversion dogmatique où on forcerait l'enfant à croire, mais plutôt comme un cadre éthique global.
Un cadre éthique?
Oui. Le texte mentionne que, je cite, « la formation de l'homme et l'éveil du chrétien forment une unité ». Mais ils ajoutent immédiatement, et c'est là que c'est important, que cela se fait en invitant foi et culture à dialoguer.
D'accord.
Dans le modèle spécifique de Clairefait, le cours de religion semble vraiment être utilisé comme une plateforme. Une plateforme pour structurer l'empathie, aborder le respect de la différence et asseoir ce qu'ils appellent l'exercice responsable de la liberté.
Donc si je comprends bien, le cadre religieux ne sert pas de filtre de sélection à l'entrée.
Pas du tout.
Il agit plutôt comme un fondement moral dont le but est de garantir que l'institution reste un espace complètement sanctuarisé pour un enfant qui est, de fait, vulnérable.
Exactement. Le projet éducatif vise avant tout à créer un refuge. Et si on relie ça à ce qu'on disait tout à l'heure sur la neurobiologie...
Vas-y, je fais le lien.
Un cerveau qui se sent en danger ou qui se sent jugé, il active son amygdale. C'est le centre de la peur dans le cerveau.
Ok.
Et lorsque l'amygdale est en alarme, elle inhibe littéralement physiquement les fonctions du cortex préfrontal.
Et le cortex préfrontal, c'est...
C'est la zone où se trouvent la logique, la mémorisation et l'apprentissage.
Ah, donc un enfant stressé est biologiquement incapable d'apprendre.
C'est exactement ça. Est-ce que l'école Clairefait tente d'accomplir en combinant ce socle moral de bienveillance, cet environnement bucolique très apaisant et toute cette ingénierie du sur-mesure cognitif, c'est purement et simplement de désactiver l'amygdale.
Wow.
En réduisant l'anxiété scolaire à son strict minimum, il déverrouait la mécanique même de l'apprentissage.
Donc le bien-être émotionnel de l'élève, le fameux refuge, c'est pas perçu comme la cerise sur le gâteau de l'éducation. C'est le moteur même qui permet à la voiture d'avancer.
C'est la condition sine qua non, oui. Si l'environnement ne génère pas de stress lié à l'inadaptation de l'enfant, l'énergie cognitive de cet enfant, qui était jusqu'alors dépensée juste pour survivre dans un système inadapté, bah elle est enfin libérée.
Et elle peut être investie dans l'acquisition des compétences. Lecture, écriture, maths...
C'est tout le pari de cette école.
Eh bien, pour synthétiser un peu les rouages de cette institution qu'on vient de mettre en lumière, quelle serait, selon toi, la grande conclusion de notre analyse des sources de Clairefait?
Je dirais que ce qui se dessine, c'est la démonstration d'un principe hyper puissant.
Lequel?
C'est que lorsque l'institution assume enfin la charge de s'adapter mutablement aux spécificités de l'apprenant, au lieu d'exiger de l'enfant qu'il se torde dans tous les sens pour rentrer dans le moule...
Eh bien, la notion même de handicap évolue.
Complètement. Les étiquettes cliniques, qui sont souvent vécues par les familles comme des condamnations définitives, elles passent au second plan.
Elles ne disparaissent pas, bien sûr.
Non, le trouble neurologique est toujours là, mais elles cessent d'être un mur infranchissable. Elles deviennent de simples paramètres, des données d'entrée dans un algorithme pédagogique.
Et franchement, la pertinence de ce constat dépasse largement les murs de Clairefait. Ça interroge la manière dont la société tout entière gère la neurodiversité.
C'est sûr.
Prendre conscience qu'un écosystème éducatif peut atteindre un tel niveau de sophistication dans le sur-mesure, ça prouve que l'échec scolaire des enfants atypiques, ben, c'est pas une fatalité neurologique inévitable.
Non, c'est bien souvent un problème de design du système éducatif lui-même.
Exactement. L'approche de Clairefait, elle démontre qu'avec les bonnes méthodes, l'intégration citoyenne et professionnelle de ces jeunes, c'est un objectif tout à fait réaliste.
C'est un message plein d'espoir quand on y pense.
Oui, on est parti au début de l'idée d'un système éducatif ordinaire qui est souvent perçu comme une chaîne de montage.
La fameuse usine de t-shirts taille unique.
Voilà. Et l'exploration de la documentation de Clairefait nous a prouvé qu'une ingénierie de la haute couture, avec un refus net de la facilité de la garderie, un usage super intelligent de la nature et une attention absolue aux mécaniques cognitives, ça permet à des élèves en grande difficulté de s'épanouir.
Et même, pour certains, de retourner se confronter au système ordinaire via la forme 4.
C'est bluffant. Ce qui nous laisse avec une réflexion finale, je trouve, assez stimulante.
Je sens que tu as une idée derrière la tête.
Eh bien oui. Si un environnement hyper individualisé, qui est axé sur la sécurité psychologique et le pragmatisme pédagogique, réussit à remettre sur les rails des enfants que le système classique considérait comme, entre guillemets, trop complexe à gérer,
oui.
Ne serait-il pas temps de réfléchir à intégrer massivement cette pédagogie du sur-mesure, avec ses plans d'apprentissage et ses aménagements ergonomiques, dans absolument toutes les écoles dites ordinaires?
À prévenir au lieu de guérir.
C'est ça. bien avant que nos élèves n'en viennent à décrocher de la chaîne de montage. Imagine un peu le changement de société.
Ce serait une véritable révolution.